Montrer les coulisses des tiers-lieux, c'est la mission que l'ANCT, l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, a confiée à l'équipe du WIP. Pour comprendre comment on monte un tiers-lieu, comment il fonctionne au quotidien, quels partenariats se créent entre des acteurs publics, privés, associatifs, citoyens, pour faire vivre ces projets. Nous allons aller visiter 7 tiers-lieux, labellisés par l'État Fabrique de Territoires, tous très différents. Nous allons aller à la rencontre des gestionnaires des tiers-lieux, des partenaires de projets, des utilisateurs, des élus, des techniciens, qui vont nous raconter comment le projet s'est construit, comment il est perçu, comment il fait évoluer les acteurs du territoire et comment il transforme les façons de faire. Ensemble, on va parler des difficultés et des succès, de la genèse à la transmission des projets. Dans les coulisses des tiers-lieux, on met en lumière ce qu'on ne voit pas pour vous aider à mieux comprendre ces lieux si singuliers. Épisode 3, le 2-4. Aujourd'hui, on se rend au 2-4, un tiers-lieu labellisé Fabrique de Territoire en 2020 et situé à Pré-en-Paille, commune rurale de Mayenne, dans la région Pays de la Loire. Nous allons rencontrer les fondateurs du projet, le maire de la commune et les nouveaux arrivants qui gravitent autour de cette ancienne friche artisanale, aujourd'hui occupée par les associations fondatrices, leurs adhérents, bénéficiaires et les derniers arrivants, les coworkers. Avec eux, nous allons interroger comment un tiers-lieu peut être un support quotidien d'actions culturelles et sociales de proximité au service de ses habitants et des nouveaux arrivants. Nous étudierons aussi la façon dont les liens se tissent entre la collectivité et le collectif porteur du tiers-lieu. Et enfin, nous allons aussi appréhender le temps long du projet et les questionnements perpétuels qu'il induit. Pour commencer et comprendre où nous avons mis les pieds, nous avons rencontré le maire de Pré-en-Paille, Denis Gélin, qui nous contextualise la situation de cette commune rurale.
On est 2350 habitants, une commune rurale, voilà, mais qui a quand même la spécificité d'être sur un axe routier important, la Nationale 12, qui nous permet encore d'avoir des commerces, d'avoir un nombre assez important. On a un tissu artisanal aussi qui est assez bien développé et un peu industriel, mais avec des entreprises plutôt de 50-70 personnes. On a la chance aussi d'avoir des équipements scolaires assez importants. On a deux écoles, une publique et une privée. On a un collège, on a une MFR, ce qui représente 650 élèves sur une population de 2350. Voilà, la proportion est plutôt bonne. On est parti sur une redynamisation de centre-bourg dès le début de notre premier mandat. Ça, c'était une de nos priorités.
Redynamiser le centre-bourg, ça tombe bien. Le bâtiment occupé par le collectif de 4 est installé dans cette zone. On retrouve désormais Julie Aubry, coordinatrice du tiers-lieu, qui, elle, nous présente les personnes et entités qui composent le collectif.
Il y a le Secours Populaire et Payasso Locaux qui forment toutes les deux le collectif de 4. Et en plus de ces deux entités juridiques, il y a aussi les super adhérents qu'on appelle ici, qui sont dans d'autres tiers-lieux appelés les coworkers, qui travaillent ici, qui ont un bureau et ou un atelier. Et en plus de ces gens-là, il y a aussi les bénévoles 2-4 qui viennent là sans avoir de casquette, mais pour vivre le lieu, pour peut-être s'investir demain, pour s'investir peut-être déjà.
Et c'est quoi le profil des super adhérents?
Le profil des super adhérents, c'est des personnes qui sont soit déjà implantées, qui sont déjà salariées de la CAE, de la coopérative d'activité et d'emploi de la Mayenne, qu'au démarrage, soit des personnes qui viennent de s'installer sur le territoire, ou déjà depuis 3-4 ans, et qui cherchaient un lieu, avant de travailler dans le lieu, plutôt un lieu à vivre, un lieu social. Et puis, oui, des gens qui veulent avant tout pas se sentir isolés. Et qui sont aussi, qui ont bien compris la dynamique du lieu, c'est-à-dire de ce fameux donnant-donnant, de la super adhésion, effectivement, elle est pas chère, et en contrepartie, je donne un petit peu de mon temps. C'est pas du tout une règle qui est fixée, c'est plutôt une règle vécue.
C'est informel.
Informel, ça, ouais. Mais du coup, j'ai l'impression que tout le monde donne un peu de son temps, par exemple, pour... être animateur du club informatique, pour faire un coup de ménage, pour accueillir, pour voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça se vit.
Et pour terminer cette fiche d'identité du lieu, nous avons rencontré Bénédicte Maillet, coworkeuse, ou autrement appelée super adhérente, qui nous fait une présentation des espaces qui composent le lieu.
Le 2-4, à une époque, on parlait d'un gros paquebot, c'est un espèce de navire un peu moche qui est dans le centre-bourg d'une commune de 2000 habitants et qui est en perpétuel mouvement et de l'intérieur, mais aussi en termes d'architecture et d'aménagement. C'est environ 1000 mètres carrés, dans lequel, qui sont répartis en fonction des usages que les gens y développent. Donc c'est toujours prêt à bouger, mais en l'état actuel des choses, il y a une boutique solidaire qui est gérée par le comité de pré-empaille du Secours Populaire, qui est reliée non pas dans l'espace, mais dans les faits à un magasin de meubles géré par le Secours Populaire aussi, qui est à l'autre bout du bâtiment. Ça, c'est surtout les espaces du Secours Populaire. Il y a une ludothèque à côté qui est gérée par Payasso Loco, principalement. Et après, il y a des espaces qui sont partagés. Il y a un atelier qui est partagé, donc, qui peut servir autant à rénover des meubles pour des super adhérents qu'à fabriquer des jeux pour Payasso Loco, qu'à faire du tri pour le Secours Populaire. Il y a l'endroit où on est actuellement, qui est un peu le foyer de vie qu'on appelle l'orangerie, et qui donne sur un jardin, qui est un jardin partagé. Et à l'étage, il y a un grand plateau qui peut servir à tout le monde et à tous pour des réunions, des actions, des activités, des ateliers en fonction des profils. Il y a une salle qu'on appelle la salle de confidentialité parce qu'elle a été créée à la base à la demande du Secours Populaire pour faire les entretiens individuels, mais qui peut aussi servir de salle de visio pour les auto-entrepreneurs ou les profs d'université qui habitent le bâtiment. Et enfin, il y a un espace de travail ouvert et partagé.
Maintenant que l'on a posé les bases, on peut revenir à la genèse du projet qui pose les fondations du collectif. Nous sommes en 2010 et l'association Secours Populaire et Payasso Loco sont à la recherche d'un local pour exercer leur mission. Ils ont identifié un bâtiment inoccupé, acquis par la mairie quelques années auparavant, mais resté dans un état plutôt précaire. Arnaud Maillet, salarié chez Payasso Loco, nous explique le temps long qu'il a fallu accepter avant de pouvoir s'installer dans les lieux.
On a tous besoin de locaux, on a tous des publics qu'on a envie de mélanger. Et avec ce qui se passe justement dans ces actualités du moment, aussi bien la culture squat que l'architecture participative et qu'on peut réagir avec face au bâtiment d'une autre manière, quoi, on réalise en écrivant ensemble que ce bâtiment, c'est la façon de croiser les projets qui ne sera pas artificielle. En 2010 et demi, on réalise que si on ne le vend pas aux élus, eh ben, en fait, on n'est que des marginaux. Donc, en fait, il y a eu des visites, des trucs organisés, des rencontres. Les élus, ça prend pas trop, quoi. Et puis, un bâtiment vétuste, avec un toit en amiante, sur le coup, ça les gêne, quoi. Et puis, on recourt à ce collectif d'archi, qui, du coup, implante le bâtiment dans les équipements. Donc là, ça fait vraiment de l'urbanisme. Qui, du coup, préfigure des transformations de façade et des fréquentations avec des services. Et en plus des élus qui, du coup, hésitent, avancent, reculent, tout ça fait qu'on met 2 ans et demi à obtenir l'accord de la municipalité pour rentrer dans le bâtiment. Et donc en 2012 et demi, on a la clé. Et en 2013, on fait la première opération de rénovation habitée là, qui commence par le jardin.
Une fois mis d'accord avec la ville, les deux associations fondatrices signent une convention de mise à disposition renouvelable tous les 5 ans. En 2013, Payasso Loco et le Secours Populaire s'installent dans un bâtiment très vétuste et avec très peu de budget. Mais comme nous l'explique Bénédicte Maillet, architecte de profession, quand il y a l'énergie et la force collective, la contrainte peut être vécue différemment.
Les contraintes, on adore ça. Moi je suis fan de Georges Perec, je m'en cache pas du tout. Et du coup c'est lui qui m'a mis dans la tête quand je faisais mes études que la liberté venait de la contrainte et que du coup c'était les territoires d'expérimentation et de création et de créativité les plus propices à faire des bons projets.
Vous l'aurez compris, les contraintes ne sont pas vécues comme des problèmes mais comme des amorces de sujets de réflexion. En témoigne le projet Habiter là, qui nous est expliqué par le maire de Pré-en-Paille, puis par Bénédicte Maillet qui coordonne le festival.
Et la particularité aussi de Palaiso Oco avec le collectif de 4, c'est qu'ils veulent aussi travailler un petit peu notre politique à nous hein, sur comment bien vivre chez nous. Il y a toujours le festival Habiter là, qui est tous les 2 ans. Et ça doit faire la 4e édition qui a été faite l'année dernière. Pour réfléchir un petit peu sur les nouvelles formes d'habitat. Donc il y a des ateliers qui sont mis en place dès le mois de janvier. avec des élus, avec des citoyens, il y a de la participation collective. Nous, on aide aussi financièrement pour faire les travaux. La municipalité a toujours eu l'objectif de dire que l'investissement qu'on mettait, c'était pour améliorer le bâtiment. Et ça permet aussi de débloquer certaines subventions, surtout leader à côté. Hein.
L'enjeu, c'est d'avoir vécu ce truc, d'avoir à un moment cette retrouver en situation de échanger sur des enjeux communs, prendre des décisions collectives, les confier à des archis qu'on n'a jamais vus parce qu'on a admis qu'ils avaient une compétence qu'on n'avait pas en notre sein et du coup qu'ils allaient répondre grâce aux recommandations qu'on a fait à des questions auxquelles on n'était pas en mesure de répondre nous-mêmes. Et après, de le fabriquer en chantier. Et du coup, d'être fatigué, d'être heureux, de se disputer, de se réconcilier, de manger ensemble, de rire ensemble, d'avoir peur de ne pas y arriver, d'avoir peur de ne pas livrer à l'heure, d'ailleurs ne pas livrer à l'heure, de faire face à ça. Et puis après, de tout d'un coup faire un barbecue, de se retourner, de se dire « Waouh !» Ça ne s'explique pas, en fait. Ça s'explique aux financeurs potentiels, ça s'explique aux élus et aux gens qui nous accueillent sur un territoire, ça s'explique à d'autres gens qui portent des projets, mais ça s'explique pas aux gens qui viennent vivre ce projet-là. C'est trop compliqué. On n'explique pas aux gens, on le vit ensemble.
Pour résumer, le festival Habitela mobilise des architectes financés par les fonds européens, des artistes financés par une subvention DRAC, les habitants et usagers du 2-4. Et ce sont la collectivité et la Caisse des dépôts qui financent les travaux. Et c'est justement cette idée de faire ensemble qui a permis au collectif de convaincre les élus, de leur faire confiance, mais aussi de mobiliser les habitants à participer au projet. Donc, côté réhabilitation du bâtiment, le collectif accepte le temps long et une amélioration au long cours. Et côté structuration en interne, on s'organise quelques années après l'installation jusqu'à créer l'association 2-4, qui intègre toutes les parties prenantes pour porter le projet tiers-lieu qui s'est appuyé sur le dispositif d'État Fabrique de Territoire.
Quand nous, on postule au tiers-lieu, l'ensemble des gens qui participent aux réunions, et ici c'est un peu dingue, mais il y a des fois 18 personnes qui participent aux réunions et qui représentent le Secours Pop, Paillasse aux Locaux, les super adhérents et tout le monde, on choisit de dire on n'a pas compris ce que c'est un tiers-lieu. Mais par contre, là, aujourd'hui, on comprend qu'il y a possibilité de convoquer une manne financière qui va nous mettre des coups de pied au cul pour nous structurer et éventuellement nous donner de la marge de manœuvre pour porter des nouveaux projets.
Là, Fabrique de Territoire, ça vous a permis de créer le poste de coordination, ouais, et de permanence. Ça change quoi d'avoir ce poste aujourd'hui dans le fonctionnement du 2-4?
La fluidité.
Moi, je dirais quand même une appropriation du 2-4 lui-même. Oui. C'est-à-dire de plus être une somme d'entités juxtaposées dans le même bâtiment, mais de comprendre qu'en fait, ce bâtiment-là, le fait d'être ensemble dedans, ça crée un espèce de plus à tout le monde et qu'il aurait besoin qu'on s'occupe de lui en tant que tel et pas toujours systématiquement en parallèle de nos autres activités d'assaut. Et puis que il nous envoie aussi un peu dans le temps long, parce que ça nous fait réaliser aussi que d'un coup, si le bâtiment il a sa propre existence, en fait il nous appartient plus. Et donc du coup il faut que nous on conscientise qu'on est en train de gérer un équipement public qui est géré par nous aujourd'hui, mais qui, grâce à la rénovation qu'on lui apporte, pourra être un équipement public même si nous on décide d'en partir, que du coup la communauté qui est de super adhérents, etc., elle est traitée comme telle et plus comme un bout d'un projet d'une des assos qui ne sait pas bien le mener parce qu'elle a trop d'activités par ailleurs. Donc quand même, le fait d'être labellisé Fabrique de Territoire, d'avoir de la coordination et que le sujet soit sur la table régulièrement, qu'on ait des assemblées régulières, que du coup il y ait une structuration qui soit mise en place, qu'il y ait des moyens pour se faire accompagner, parce qu'on s'est fait accompagner pendant 6 mois, sur qui on est, pourquoi on le fait, etc., quel va être le modèle de structuration qui va nous correspondre, machin bidule. Donc du coup, le label et la fabrique, ça nous a apporté ça.
Nous avons posé la question au maire de la commune, quel rapport il avait, lui et son équipe, avec cette notion de tiers-lieu.
Parce que le tiers-lieu, c'est vague, et il y a beaucoup de choses dans le tiers-lieu, et j'ai l'impression que tout le monde met tout dans le tiers-lieu maintenant, donc on a un peu du mal à se retrouver. Nous, l'avantage ici, c'est que c'est eux qui ont lancé tout seul, hein, le tiers-lieu. Hein. Et nous, on a été au courant, mais ils ne se sont pas dit, voilà, on a besoin de, tout de suite de la collectivité pour lancer un tiers-lieu. Ils étaient déjà dans cette optique-là, déjà. Ouais, c'est le tiers-lieu qui a fait que ça a permis d'apporter un plus pour leur collectif. Mais ils nous ont demandé si on voulait les suivre, si on voulait les soutenir, mais c'est eux qui ont tout porté. Et ça, pour nous, c'est super.
Bénédicte et Arnaud Maillet, membres du collectif de 4, sont conscients de cette nébuleuse autour du tiers-lieu. Ils nous expliquent leur posture.
Donc du coup, ça crée des zones de flou que nous, on revendique en disant on ne veut pas clarifier quelque chose parce qu'on ne veut pas établir une feuille de route sur les 10 prochaines années parce qu'on veut être capable de s'adapter à la réalité. Et de l'autre côté, l'élu dit, bah oui, mais moi, sans visibilité, comment je fais pour abonder dans votre sens parce qu'en fait, vous me dites que du volatile. Et en plus, j'ai plus les outils parce que ce que vous revendiqueriez, ce serait un soutien au fonctionnement. Et en fait, le soutien au fonctionnement, je ne l'ai même pas dans mes fiches pour continuer à vous aider. On est dans un espèce d'endroit où bah, on fait au coup par coup et puis en essayant de faire chier personne.
Mais je me dis, s'il y a un vrai intérêt de ça, c'est le partage de la culture de l'expérimentation. Ce que je veux dire par là, c'est que plus on va parler de tiers-lieux, de démarches comme ça, et plus ça va tourner dans la tête des gens, plus ça va être facile de quand même de dire, je sais pas, on sait pas où on va, mais on voudrait des moyens pour essayer d'y aller.
Un autre point de vigilance évoqué par le maire de Pré-en-Paille, c'est la différence de rythme entre les deux entités. Pour lui, cela nécessite du dialogue et une bonne communication.
La difficulté qu'on a et la difficulté des fois qu'il faut qu'on explique, soit aux associations, soit aux concitoyens, c'est que quand on a une idée de projet et le jour qu'on arrive à la réalisation, il se passe énormément de temps. Donc on sait bien qu'il faut 3 à 4 ans dès qu'on a une idée pour arriver jusqu'à la fin de certains projets. On sent qu'il y a une demande qui est là, mais... nous, le dossier ne va pas aller aussi vite qu'ils espèrent. Mais on a toujours eu du dialogue. Dès qu'ils ont un besoin, ma porte, elle est ouverte et on les reçoit avec grand plaisir. On essaie de trouver des solutions ensemble. Je pense qu'un tiers-lieu qui est porté par un collectif, comme une association, comme le 2-4, c'est plus profitable. Parce qu'ils ont bien leurs idées à eux. Ils sont vraiment inclus à fond dans leur projet. Une collectivité, on a plusieurs projets, on aurait peut-être moins le temps de travailler dessus. Donc, s'ils ont un collectif qui a envie d'y travailler, je pense qu'il faut de l'écoute.
Ici, à Pré-en-Paille, la collectivité a bien compris la nécessité d'un tiers-lieu comme le 2-4, qui participe à l'attractivité du territoire de par son rôle social, sa programmation culturelle et son activité économique, avec une proposition de coworking qui prend aussi le rôle de booster pour les porteurs de projets qui se lancent. À ce propos, nous avons rencontré Clotilde Béjuge et Nicolas Poinceau, des néo-ruraux arrivés sur le territoire il y a quelques années et qui se sont intégrés à la population, notamment grâce aux 2-4 et à leur implication qu'ils ont pu donner dans un premier temps en tant que bénévoles. Après s'être bien installés, Clotilde et Nicolas ont tissé leur réseau. Ils ont lancé leur projet entrepreneurial, l'Étimbule, une structure qui propose à quelques kilomètres du tiers-lieu un catalogue de services et d'ateliers autour de la nature et de la préhistoire.
Je pense que l'histoire là, récente de l'Étimbule, on peut parler beaucoup du booster et du départ avec le 2-4. Notre projet personnel, il a mis plus quelques années, 3 ans à venir, et il a émergé aussi avec des gens d'ici, en fait.
Et aujourd'hui, donc ça fait 3 ans que l'Étimbule existe. C'est quoi vos liens avec le 2-4 ? Comment ça continue ? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous, ces liens qui perdurent, et est-ce qu'ils ont évolué ?
Ils ont forcément évolué, un petit peu. Mais il y a des choses qui perdurent. L'envie de faire ensemble, déjà. Et puis, c'est toujours notre base arrière. On vient moins souvent, mais on vient toujours travailler ici, d'un point de vue bureautique. On sait qu'on a cette possibilité-là. On a le côté réunion, salle de bureau qu'on utilise ponctuellement.
On fait nos AG ici, par exemple.
On fait nos AG ici. Ça permet aussi plus facilement d'avoir un pied dans le bourg. Ça permet aussi peut-être plus facilement aux élus de pointer leur nez que de grimper là-haut, parce que c'est toujours difficile de grimper là-haut. Et en termes de lien avec les structures, donc on utilise toujours les ressources qui sont présentes. C'est un réseau qui s'est construit. J'ai l'impression qu'on est devenu une petite pièce du réseau, quoi.
On a besoin d'une, effectivement, une base arrière, c'est un peu le bon mot, un lieu où, bah oui, l'hiver, nous, on n'a pas de bureau, c'est pas du tout installé comme ça, on n'a pas forcément d'atelier de bricolage de la même manière, parce qu'on, effectivement, on travaille, on fait des bricolages archéo, mais quand on commence à faire plusieurs dizaines, vingtaines de prestats dans un mois, de temps en temps, on fait aussi des bricolages avec des visseuses, des tasseaux et des, et des choses comme ça, et là, ici, il y a un atelier chouette, des gens peut-être plus compétents que nous.
Il y a de l'infrastructure et des personnes ressources.
Voilà, des personnes.
Enfin, effectivement, là, pour de la gestion, pour des questions administratives, on sait que si on le souhaite, on a des gens avec qui on peut se retourner de façon professionnelle, là, pour le coup. On a toujours le soutien des copains, on peut toujours poser des questions à celui qui est plus avancé en compta ou autre.
On retrouve à nouveau Arnaud et Bénédicte, super adhérents, tous deux installés au 2-4, avec leur activité de jeu ludique pour le premier et de permanence architecturale pour le deuxième. Ils sont natifs de Pré-en-Paille et nous expliquent ce que le tiers-lieu leur apporte à eux et au territoire.
Il va y avoir des profils très très clairs de gens, plutôt urbains d'ailleurs, qui se retrouvent tout de suite dans ce lieu et qui se disent « Ah bah oui, on hésitait à acheter ici, j'ose le dire parce qu'il y en a deux ou trois autour de nous. » Qu'on dit le 2-4 nous a fait franchir le pas de l'achat. Mais c'est pas ça qui remplit l'école à ce point-là et tout ça. Donc c'est vraiment, à mon avis, c'est dilué.
Qu'est-ce qui aujourd'hui, sur un territoire rural comme ici, s'il n'y avait pas de tiers-lieu, qu'est-ce qui se passerait pas ?
S'il n'y avait pas le 2-4, je ne serais pas là. Parce que j'ai une activité en mon nom, dans laquelle je suis seule. Je ne la vivrais pas en milieu rural s'il n'y avait pas un lieu comme celui-là. Donc je pense que ça, c'est partagé par quand même quelques-uns des micro-entrepreneurs, même si on n'est pas sous ce statut, qui fréquentent ce lieu.
C'est quoi les caractéristiques qui font que ça te fait rester ?
L'énergie du collectif, c'est complètement bateau comme réponse, mais c'est de me sentir pas seule, de sentir qu'il y a des gens qui osent, et que du coup, et que ces gens-là, ils sont proches de moi, et que s'ils osent et qu'ils y arrivent, ou même s'ils osent et qu'ils ratent, et ben, peut-être que je peux oser y arriver, et oser rater, et on s'entretient.
Par ces témoignages, on comprend que le tiers-lieu participe à l'attractivité du territoire. Les natifs sont plus enclins à rester ou à revenir habiter dans le secteur après leurs études, et les nouveaux arrivants sont séduits par ces lieux qui participent à leur intégration sociale et au développement de leurs projets professionnels. Nous tenons à remercier Julie Aubry, Bénédicte et Arnaud Maillet, Clotilde Béjuge, Nicolas Poinceau et Denis Gélin pour leur participation à ce podcast. On se donne rendez-vous dans un mois pour un prochain épisode dans les coulisses du tiers-lieu Baraka à Roubaix.